Libre débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. Tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4.
Les 11 et 12 avril 2025, les studios Son de la Parole Errante et la librairie Michel Firk ont organisé un gala d'autofinancement, les journées FM. FM comme fabriquer la mémoire. Le samedi a eu lieu la table ronde que nous allons écouter, des archives, de la radio, des gestes d'émancipation. Avec nous, Juliette Vauclair et Géraldine Beck. Toujours en lien au thème de la mémoire, le vendredi précédent, nous avons présenté les livres, Les Sabliers. Bonne écoute.
Hier soir, donc, on s'est arrêté sur le livre Le Sablier, édité par les éditions du Bout de la Ville et écrit par Ekaterina Ulitskaya, qui nous a permis en fait de découvrir les mémoires d'une socialiste révolutionnaire ukrainienne qui a passé donc 30 ans de sa vie entre des camps et des zones de relégation du système concentrationnaire soviétique. Et ce livre, Ulitskaya, en fait, l'avait écrit pour laisser une trace de ce qui a été effacé ou écarté du récit historique de la Révolution russe. Et aujourd'hui, c'est aussi cette interrogation qu'on a sur justement la question des traces, des archives, de qu'est-ce qui est laissé. Et on va s'interroger à partir d'un livre qui s'appelle donc « Nous ne nous tairons plus, pratiques féministes de la radio et leur contexte », édité par les archives contestataires. Et on a invité Géraldine, des archives contestataires, et Juliette, qui a écrit la préface du livre. Elles se présenteront beaucoup plus dans le détail quand elles prendront la parole, pour discuter avec nous autour de cette question. Archives, radio, lutte d'émancipation, on a échangé pas mal avant de vous proposer voilà cette petite discussion et ce qu'on va vous proposer c'est aussi des questions qui nous animent nous quoi en tant que studio son. Et comme première question pour pouvoir entrer directement ensemble dans ce livre et dans ces réflexions sur les archives radiophoniques, Géraldine, est-ce que tu peux nous présenter donc le point de départ du livre, qui est très concrètement le versement de cassettes d'une émission qui s'appelle Radio Pleine Lune aux archives contestataires.
Oui, tout à fait. Bon, déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis super contente d'être là et de retrouver Juliette à cette occasion. Peut-être pour commencer, je vais dire quand même deux mots sur ce que sont les archives contestataires. Donc, c'est une association à Genève, en Suisse, qui a été créée en 2007. À l'initiative de militants et de militantes qui ont été actifs dans les mouvements sociaux et surtout à l'université en 68 et après, et qui avaient connaissance d'un patrimoine documentaire qui était dispersé chez des militants et qui allait probablement disparaître s'il n'y avait pas la création d'un lieu pour conserver ces fonds d'archives, en fait. Donc voilà, l'association est née en 2007 et depuis ce moment-là, on récolte de la documentation qui a été produite dans le cadre des mouvements sociaux et c'est un panel très large de choses. Comme vous pouvez vous l'imaginer, bon, bien sûr, il y a des archives qui sont liées aux organisations à gauche du Parti communiste, mais il y a aussi tout un tas de trucs qui viennent des luttes environnementales, des luttes de quartier, de l'antimilitarisme, des luttes anti-impérialistes, etc. Et évidemment, les mouvements féministes font partie de ces mouvements sociaux. Donc il y a les archives du mouvement de libération des femmes de Genève, le MLF, et puis il y a d'autres choses. Et en 2011, il y a une femme qui s'appelle Viviane Gonick qui nous a versé environ 300 cassettes, qui étaient une partie de l'archive de l'émission Radio Pleine Lune. Je parlerai un peu mieux de l'émission après. Mais le problème des supports audiovisuels, et particulièrement des cassettes audio, donc c'est les petites cassettes qu'on connaît, qu'on avait dans nos voitures quand on était petits, quoi, c'est que c'est un support qui est très fragile. Et plus le temps passe, plus c'est difficile de les écouter avec des lecteurs cassettes non professionnels, parce qu'elles risquent de s'abîmer. Et donc nous, on a trouvé de l'argent pour pouvoir numériser ces archives. Et c'est aussi parce qu'on avait l'impression que, déjà, elles ouvraient sur une période un peu moins étudiée et un peu moins connue de l'histoire des mouvements féministes, qui sont les années 80 et 90. Et on trouvait intéressant de se poser la question de l'histoire de ces mouvements à partir du média, en fait, à partir du média de la radio. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait. On a numérisé ces émissions et on a entamé un cycle de à peu près 3 ans de réflexion autour de l'usage de la radio par les mouvements féministes. On a fait plusieurs choses. On a fait des événements plutôt de l'ordre commémoratif où on a invité des anciennes animatrices des émissions à venir nous parler de ce qu'elles faisaient en collaboration avec des personnes qui pratiquent la radio aujourd'hui. On a fait des podcasts à partir des archives, etc. Puis après, on a ouvert un pan plutôt de recherche, et c'est dans ce cadre-là qu'est paru le livre, qui est en fait le fruit d'une journée d'études qu'on a organisée autour de cette question des usages de la radio. Et donc, en deux mots, le livre, il présente 5 émissions qui ont été produites entre 1975 et 2000, plus ou moins. Certaines émissions pirates, pour la plupart des émissions féministes, donc surtout faites par des femmes, mais pas que. Il y a aussi des expériences, en l'occurrence une expérience de radio pirate mixte, dans laquelle on observe un peu la façon dont les femmes s'emparent de l'antenne. Donc voilà, c'est ça.
Peut-être qu'on peut écouter un extrait de Radio Pleine Lune.
Radio Pleine Lune.
Radio Pleine Lune.
Radio Pleine Lune, tous les 28 jours.
Ce soir, on va parler de la clinique psychiatrique de Bel Air à Genève, et sur les traitements soi-disant thérapeutiques que les psychiatres y emploient. Voici donc notre pièce policière. Le cabinet du docteur Pissot.
Bonjour, docteur Pissmouille. Je suis le représentant de la firme Sip à la Roche-Santo, Fritz Müller. J'ai ici en exclusivité le Danublion Bleu 45 que notre maison-mère vient d'accoucher. Jamais testé, une beauté, effet de tassement instantané et prolongé. Bien entendu, pour tester ça, on est prêt à vous aider généreusement à Bâle. Vous voyez ce que je veux dire.
Hein, tassement prolongé, hein, ma pinette généreuse, hein, oui, bien sûr. Ben, vous en rajoutez un autre wagon au convoi, hein. Ah, c'est vraiment formidable.
C'est extra, docteur Pissmouille, très bonne collaboration. Au revoir, à bientôt.
Nous sommes des femmes, donc particulièrement sensibles et concernées par la réalité de la folie et par son corollaire, souvent obligé, de l'enfermement dans un asile psychiatrique. Enfermement commandé par les flics, par les médecins, mais aussi par nos proches, notre famille. Finir à Bel Air, ça sonne malheureusement proche de nous, ça fait partie de nos peurs les plus profondes et les plus fondées. L'asile psychiatrique est la prison de notre délinquance première, de notre mal de vivre dans une société injuste et contre les femmes. Il y a beaucoup plus de femmes à l'asile qu'en prison. La violence que cette société provoque en nous, nous la retournons bien trop souvent contre nous-mêmes au point d'en devenir folles. Insupportables, déprimées, bizarres, anormales, révoltées, fragiles, cassées, mélancolique, délirante, déviante, différente et vieille. Nous sommes concernés.
Est-ce que Géraldine, tu veux bien nous dire un petit mot sur l'extrait qu'on vient d'écouter ?
Tout à fait. Alors, on vient d'écouter un extrait de la toute première émission de Radio Pleine Lune, qui était donc une émission qui a existé entre 1979 et 1999. Elle a été émise pendant 20 ans de manière hebdomadaire. D'abord pirate, donc en piratant les ondes des femmes, puis ensuite sur une station en France à côté de Genève. Je reviendrai peut-être un peu là-dessus après, mais... Ce qui est intéressant avec cette émission-là, ce premier extrait qu'on a écouté, comme vous l'avez entendu, c'est pas très facile de comprendre de quoi il s'agit. En plus, c'est un petit montage parce que je voulais un peu montrer la diversité du ton qui était employé dans l'émission. Et donc, c'est des émissions qui sont préenregistrées et qui ensuite sont balancées sur les ondes FM le plus longtemps possible jusqu'à que la police et les autorités viennent brouiller les ondes. Et donc, c'est des femmes de Genève qui ont fait ça pendant quelques années, puis ensuite se sont installées sur une station. Et là, elles parlent d'une affaire qui a particulièrement ébranlé la ville en 1980, qui est la mort d'un homme qui s'appelait Alain Urban, qui est décédé à l'hôpital psychiatrique à Genève suite à un traitement un traitement de sommeil qui lui avait été administré contre son gré. Et en fait, c'est un événement qui a particulièrement mobilisé différents groupes des mouvements militants à Genève. Et je trouvais intéressant de montrer ça parce que ça montre comment les femmes se sont servies de la radio à cet endroit pour vraiment intervenir dans cette lutte. Donc d'abord, c'est assez étonnant parce que elles en font un contenu un peu humoristique. En fait, il y a une sorte de pièce policière où on essaye de trouver qui est le coupable de la mort d'Alain Urban. Voilà, étonnant. Et ensuite, elles produisent aussi un savoir assez spécifique sur la question de la médicamentation, où elles vont expliquer tout au long de l'émission quels sont les médicaments qui sont utilisés dans ce cadre, où est-ce qu'ils proviennent, etc. Et puis, surtout, elles vont poser un regard féministe sur cette question de la psychiatrie et montrer en quoi les femmes sont spécifiquement touchées par cette question, pourquoi est-ce qu'elles ont tendance à plus souvent être internées, etc. Et je trouvais que c'était un bon exemple de ce qui va ensuite constituer l'émission, c'est-à-dire un regard féministe sur des enjeux d'actualité, sur des enjeux de lutte, et sur des enjeux au sein desquels les femmes et les féministes de Genève sont actives, en fait. Voilà.
L'introduction du livre est écrite par Juliette, qui est ici avec nous. Et tu reviens un peu dans cette introduction, un peu aussi sur ton parcours autour du son, qui est un parcours de production, réflexion, partage de savoir. Et parmi les expériences que tu cites, c'est l'expérience de l'intempestive. Et cette émission où tu as produit aussi entre 2007 et 2012 des récits monographiques sur des radios libres. Donc, plusieurs radios libres. J'ai regardé tout à l'heure, on peut trouver les émissions en ligne et dans les sites de l'intempestive. Et donc, j'ai regardé un peu, par exemple, il y a Radio Canu, Radio Larzac, Radio Galère. Il y a aussi, entre autres, Radio Colifata à Buenos Aires. C'était la radio à l'hôpital, et c'est la radio encore actuellement à l'hôpital psychiatrique Borda à Buenos Aires. Et donc, on voulait te demander si tu pouvais un peu nous retracer ta plongée sur l'histoire des radios libres.
Oui, merci aussi pour l'invitation. Et l'invitation de Géraldine, déjà au départ, à écrire la préface, ça ne devait pas être une préface, ça devait être un autre chapitre. Et c'était un double pas de côté, parce que moi, ma pratique de la radio, elle a commencé en 2005. Donc, c'était en dehors du champ du cadre temporel qui était défini pour l'étude des différentes émissions féministes. Et par ailleurs, j'ai jamais produit, en tout cas dans les années 2000-2010, d'émissions féministes. En revanche, j'avais une pratique féministe de la radio avec laquelle j'abordais d'autres thématiques. C'était plutôt mon usage de l'outil radiophonique que je définis comme féministe. Et 2005, en fait, j'ai commencé, et donc Géraldine m'avait invité à raconter, enfin, elle voulait avoir une expérience située aussi de la part d'une personne qui avait participé à la radio en France, en l'occurrence. Et, je t'en prie, mais du coup, j'ai la voix métallique, là. Donc d'avoir une expérience située, de partir du parcours que j'avais suivi dans les radios libres dans les années 2000-2010, en France en l'occurrence. Et j'ai commencé en 2005 à Fréquence Paris Pluriel, qui est une radio qui est aujourd'hui rue de la Solidarité, qui était au départ à Stalingrad, au 45 rue d'Aubervilliers, qui était un lieu où il y avait plusieurs structures de médias libres, ou médias, ou web, il y avait plusieurs coopératives, etc. Et le MIB également. Et j'ai commencé à travailler, à intervenir au sein d'une émission qui s'appelait Les Oreilles Loin du Front, qui existe toujours, une émission antifasciste. Et après 2 ans, en fait, j'ai voulu expérimenter de nouvelles manières de faire de la radio, plus personnelle, plus singulière, quoi. Ça m'amusait d'utiliser l'outil. Et cette volonté d'expérimentation, à la fois dans les formes que j'allais utiliser, donc faire du documentaire et pas seulement de l'entretien en plateau ou du reportage en manif, et aussi sur des sujets très précis. Et notamment, ce qui m'avait frappé en arrivant à FPP, c'est que il y avait vraiment une question en fait qui n'était pas résolue autour de la transmission de la mémoire de la radio elle-même, de la radio en tant que telle, FPP. Et puis, à l'intérieur des différentes radios libres, en parlant aux différentes personnes, ça semblait être quelque chose où l'histoire n'était pas... Enfin, il y avait une histoire un peu fantasmée de la radio pirate, en fait, dont on était les héritières et les héritiers, et on se revendiquait de cet esprit libertaire de la radio pirate, où on prend la parole, on ne demande pas la permission. Mais derrière, en fait, dans la mémoire concrète de comment on avait construit les outils, et une radio associative, c'est très différent d'une radio pirate. Là, en fait, il y avait un trou, en fait. Il y avait une lacune dans cette histoire, et elle n'était pas... On n'avait pas les outils pour la transmettre. Et du coup, j'avais décidé d'aller faire un petit tour des différentes radios libres, enfin, de plusieurs radios libres en France, que j'ai choisies par affinité politique, on va dire. Les radios qui étaient soit autogérées, comme Radio Canu, soit avec une démarche où il y avait beaucoup d'expérimentation formelle, en plus de la radicalité politique, qui pour moi était indissociable, qu'il fallait travailler ensemble en tout cas. Donc là, je pense par exemple à une radio comme l'Écho des Garrigues à Montpellier, ou Canal Sud à Toulouse. Et puis je m'intéressais aussi à l'histoire même de FPP. Là, tout à l'heure, on entendra un extrait de Radio Tomate, et en fait, FPP a participé à... Des gens qui ont fondé FPP ont auparavant fondé la deuxième radio tomate. Il y en a eu deux dans l'histoire des radios en France. Et c'était notamment articulé autour d'un groupe qui faisait l'émission Parloir Libre, qui était l'ancêtre de l'Envolée aujourd'hui. Et c'était refaire surgir toute cette histoire qui sinon était oubliée, qui ne se transmettait pas du tout dans les émissions en interne. Et construire aussi une histoire orale par les personnes qui fabriquent la radio, qui la fabriquent au jour le jour, avec des questionnements sur vraiment qu'est-ce qui est politique dans le fait de faire de la radio libre aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on se revendique radio libre? Est-ce que c'est uniquement dans les discours qu'on va porter à l'antenne? Est-ce que c'est également dans les formats qu'on va choisir à l'antenne? Dans la manière dont on décide quelle émission va rentrer sur la grille ou pas. Il y a des émissions qui ne veulent pas de grille aussi. C'était très politique, en fait, de décider de ne pas avoir de grille d'antenne. Avec d'ailleurs un producteur qui m'avait dit le terme de grille lui-même, c'est un terme carcéral. On n'en voulait pas, quoi. Et après, ça a été imposé, en fait, par le CSA, l'instance de régulation. C'est tous ces questionnements-là, en fait. Qu'est-ce qui est... où est-ce qu'on agit, en fait? À quel endroit on agit quand on fait de la radio libre?
Peut-être, comme ça tu devrais prendre ton souffle, on peut écouter un petit extrait de l'Intempestive.
Thank you. Voilà, voilà, c'est l'intempestive. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ?
La voiture s'est arrêtée à l'entrée du sous-bois. Par ici, ce chemin est le seul praticable. Trois silhouettes descendent du véhicule, chargées d'appareils divers. Un bref regard aux alentours, un moment de silence, rien à signaler. Les silhouettes s'enfoncent dans les sous-bois, dans le sous-bois. La voiture est abandonnée au milieu du chemin, où elle empêche toute pénétration d'un autre véhicule. Après quelques minutes de marche, le sommet d'une butte est atteint. On installe une sorte de parapluie sans toile, une antenne. Elle est reliée à un petit émetteur de 25 watts, branché sur une batterie. Il faut encore connecter un lecteur de cassette, faire quelques réglages et c'est prêt. L'émission peut commencer. L'émission peut commencer.
Radio verte.
Ça, c'est voilà, de radio verte. Radio libre, radio de combat.
C'était début décembre, au beau milieu d'un long événement organisé autour des radios libres dans plusieurs lieux de Bruxelles. Radio Panique et Radio Campus Bruxelles avaient décidé de fêter ainsi les 30 ans de celles qu'on appelait maintenant en France les radios associatives non commerciales et en Belgique les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente.
Alors ça, c'est une affiche qui annonce une rock party. On dit une rock ou un rock ? Un rock party. J'ai tendance à féminiser. Hein.
On était quelques-uns venus de France ou d'Italie.
Alors là,
pour l'occasion.
C'est Radio Campus,
Marie-Pascal, Cédric et Guillaume de Radio Zinzine, Donata de Radio Chita Futura, Joël de Fréquence Paris Pluriel, Clément qui revenait tout juste de la radio La Colifata, faite par et pour les patients de l'hôpital psychiatrique Borda à Buenos Aires, Yéter et moi de Radio Galère. Sophie de Radio Panique nous avait d'abord fait visiter une exposition autour des radios libres qu'elle avait organisée.
Là, il y a une affiche de 1984.
Là, ce qui est frappant en fait dans cette archive, bon déjà c'était un moment très sympa en fait autour de cet anniversaire des radios libres en Belgique, qui réunissait plein de radios françaises aussi. Et c'est qu'on entend en fait que la mémoire de la radio, elle est aussi physique en fait. Elle passe par des affiches, elle passe par des concerts, elle passe par des flyers, elle passe par plein d'autres choses en fait que la voix. Et elle s'inscrit dans plusieurs supports différents en fait autour de la radio, que c'est pas strictement de la radio. Et puis c'est une histoire qui est écrite d'en bas quoi, c'est-à-dire dans l'idée de faire une série d'émissions monographiques sur les radios libres, c'était pour aller chercher ce que je trouvais pas dans les bouquins sur l'histoire des radios libres ou des radios ou même des radios pirates en fait. C'est qui raconte l'histoire vue d'un point de vue d'historien ou d'un point de vue un peu surplombant depuis le futur, où on va réécrire en fait tout ce qui se passe dans le passé. Mais là, en fait, c'était vraiment écrire l'histoire au présent de chaque antenne et voir quelles étaient les spécificités de chaque type de radio en France à la fin des années 2000, quoi.
Ben, ce que tu nous dis, ça rapporte un peu. On avait prévu une question, mais c'est presque une question pour laquelle la réponse demandera un très long débat. Et c'est-à-dire, à un moment, tu choisis des extraits des émissions. Avec ces extraits, tu fabriques une émission qui est une monographie sur une radio. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'on a des archives. Et c'est un peu intéressant, et je ne sais pas si on arrivera là forcément à répondre, mais quand un récit, quand un enregistrement, quand une image devient archive, est-ce que c'est dans les gestes des personnes qui fabriquent une éditorialisation, est-ce que c'est dans les composants? Du coup, il y a une vraie question ouverte sur qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est une archive?
Ouais, bah, en fait, je peux faire le lien avec le choix de mettre Antonin Artaud pour en finir avec le jugement de Dieu. J'ai cassé les oreilles de tout le monde pendant des années avec ça. Après, tout le monde voulait me faire changer d'indicatif. J'ai jamais changé. Et c'était aussi, en fait, j'utilisais beaucoup au niveau des archives sonores UbiWeb, qui existe toujours d'ailleurs, qui est une base d'archives de création sonore, musicale, expérimentale, qui date depuis vraiment un petit bout de temps. Et c'est vraiment le fait de... le prétexte, en fait, d'aller choisir des sons, de se laisser happer l'oreille par quelque chose et de se dire, bon, je vais l'intégrer dans mon écriture à tel endroit. Et c'est, en fait, moi, c'était la manière qui me convenait pour moi, en tout cas, pour comprendre ces archives. C'est-à-dire à partir du moment où c'est juste des choses qui sont stockées, soit sur des cassettes, soit dans des disques durs, si j'engage pas un rapport personnel à cette archive à un moment, qui soit cognitif, affectif, enfin, quelque chose qui fait que je vais me souvenir en fait de tel moment, ah oui, à un moment, il y a une personne qui dit ça, elle a telle tonalité, et là, en fait, l'archive commence à faire sens pour moi. Et pareil, de les utiliser en mêlant ça avec soit des archives, en l'occurrence sur la série des Radio Libres, c'était les archives des émissions. Dans mes autres séries d'émissions, c'était des archives du Buweb la plupart du temps. Voilà, c'est créer en fait un truc qui s'entrechoque à un moment, qui va faire quelque chose de singulier dans l'oreille et qui fait que tout à coup, hop, l'archive, elle est là, quoi. Elle est présente, elle revit, quoi. Alors qu'elle ne revivrait pas si jamais on la laissait à l'état de fausse neutralité, d'objet historique.
Juliette, justement, quand on parlait de ça, tu nous as proposé l'écoute d'une émission. Alors, c'est Sam Boursier. Les titres spécifiques de cette émission, c'est l'archive vivant. Et c'est dans l'émission Des poils sous les bras. Nous, on l'a écouté.
De Radio Saint-Ferréol, ouais.
Et du coup, peut-être tu peux dire pourquoi nous on a adoré écouter cette émission qui fait vraiment écho à des réflexions que nous portons au studio son, justement sur cette idée d'une mémoire active, d'une archive active, d'une volonté de fabriquer une histoire commune. Et donc on écoutera tout à l'heure un extrait si tu voulais aussi dire deux mots sur...
Oui, Sam Boursier, c'est un sociologue et un militant transféministe qui est très actif en fait sur la construction des archives LGBT de Paris et qui a été puisque elles existent déjà, elles sont constituées et donc il était interviewé dans cette émission pour parler en fait dans le local des archives sur ce que ça faisait et en fait il en parle de manière il dit à un moment donné, je sais pas si c'était cet extrait-là que vous avez pris, mais il dit les archives c'est du papier, nous on va pas les mettre sous cadre quoi. Enfin on va les utiliser, elles vont se salir, ok, mais en fait elles vont pouvoir continuer à vivre. Et c'est ce rapport vivant physique en fait aux archives, vraiment le rapport matériel aux archives en fait qui leur permet de continuer à vivre et que je trouve, enfin. Cette émission, elle date d'il y a très peu de temps, en fait. Elle est sortie, genre, il y a 2-3 semaines. Donc, je trouvais ça vraiment pile à point pour notre plateau. Et en plus, ça fait beaucoup, beaucoup écho à ce qui se passe aux États-Unis, où, parmi les toutes premières mesures, en fait, du régime fasciste, il y a précisément l'effacement de la mémoire des minorités. L'effacement, notamment, en fait, de la mémoire des minorités trans ou LGBT en général. Et des autres minorités, noires, enfin toutes les minorités, quoi. Et puis la mémoire des luttes aussi. Effacement vraiment matériel avec le fait que des sites entiers sont mis hors ligne, avec le fait que les papiers de personnes sont supprimés. Enfin, voilà. Et précisément construire des archives indépendantes, des archives depuis les luttes. Également, c'était la démarche qu'avait fait Viette Bess avec le Jargon Libre. Ou bien voilà plein d'autres démarches d'archives militantes. Je pense aussi à Nathalie Magnan qui a aussi beaucoup fait ça avec la communauté LGBT. En fait c'est fondamental quoi parce que si jamais on le fait pas, si jamais on s'en remet à l'État ou aux institutions pour conserver la mémoire de nos existences et de nos luttes, elles peuvent être déjà elles seront éditorialisées d'une manière extrêmement biaisée avec la représentation que le pouvoir a de nous. Mais en plus, elles seront à la merci d'un effacement, dès l'arrivée d'un gouvernement encore plus autoritaire.
Oui, en fait, je voulais juste faire le lien avec ce que tu dis, Juliette. C'est vraiment intéressant parce que je pense que ce que tu décris, cette démarche-là de produire une archive, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ça en ce moment. Enfin, aussi du point de vue d'archiviste, la question de l'archive communautaire, c'est une question vraiment imprégnante en ce moment. Mais en fait, les femmes de la pleine lune, au moment où elles font l'émission, elles pensent exactement la même chose. Elles disent, nous, on a besoin d'écrire notre propre histoire, on a besoin d'archiver ce qui se passe dans nos mouvements. Et donc, finalement, la dynamique, elle est assez similaire. jusqu'au fait que les deux femmes les plus actives dans l'émission de radio, elles ont gardé les cassettes au lieu de les laisser à la station. Donc elles ont gardé elles-mêmes l'archive pour ensuite décider où est-ce qu'elles allaient la verser et comment est-ce qu'elles allaient ensuite poursuivre en fait le travail d'histoire autour de ça. Donc voilà, je trouve que ça fait vraiment écho à ce que tu dis, c'était la même démarche à l'époque.
On va écouter les petits extraits, ça nous en parle beaucoup.
Pour les savoirs, les archives permettent de produire des savoirs et des pouvoirs, voilà. Donc les archives, souvent les gens, les LGBT ou tout le monde, parce que encore une fois, moi j'étais comme ça avant, c'est pour les historiens. Mais les historiens, ils ont un usage très particulier d'archives, en fait. Ils ont un agenda. Ils sont dans un régime de vérité. Alors je sais, ça choque beaucoup de gens quand je dis les archives, c'est pas fait pour la vérité. Ça peut, parce qu'on peut utiliser l'archive pour la réparation. On a vu en Afrique du Sud quand il y a eu les commissions réparation, évidemment, c'est le ou même après les camps de concentration, il y a la question de l'archive preuve pour prouver. Là, c'était plus que de la discrimination, l'extermination, etc. Donc l'archive sert à la justice. Et là, faut établir la vérité des faits. Mais l'archive, elle sert aussi. Pas qu'à ça. Enfin, je veux dire, les historiens, ils ont leur manière de créer des chronologies, d'ailleurs, qui bougent tout le temps, donc elles ne sont pas si vraies que ça. Moi, je pense qu'il faut se dégager du régime de vérité. L'archive, elle n'est pas pour dire les choses vraies. Elle est là pour que on se souvienne ensemble.
Et ce que nous dit là Sam Boursier, c'est vraiment que la production mémorielle, c'est un geste politique. Et écrire sa propre histoire, donc ça va être un des enjeux du mouvement féministe dans les années 70. Et est-ce que, Géraldine, tu peux revenir sur l'importance, à ce moment-là, d'affirmer un espace politique propre, donc pour les féministes de Radio Pleine Lune, et comment l'outil radio, en fait, va venir participer à la création de cet espace?
Oui, tout à fait. Ben, peut-être rapidement rappeler que cette question de la prise de parole, en fait, elle est centrale au mouvement de 68. C'est pas qu'une question qui intéresse les féministes. Je pense que voilà, donner la voix aux subalternes, c'est vraiment un des gros enjeux de l'époque. Et mais jusqu'aux années 70, finalement, le seul moyen de... Je continue ou pas? Ouais, c'est bon. Jusqu'aux années 70, les seules voies de diffusion qui sont accessibles aux militants et militantes, c'est l'imprimé. Et bon, voilà, l'imprimé, ça pose plein de questions. En plus, les imprimeries sont aussi un monopole très masculin. Enfin, voilà. Et donc, une des hypothèses du livre, c'est que la radio, elle vient remplir un rôle vraiment spécifique à cet endroit, en permettant aussi une prise de parole à partir de l'oralité. Qui casse certaines barrières, en fait, qui a pas les mêmes limites que le texte, quoi. Et donc c'est cette question qu'on avait envie de se poser avec le livre. Et je me suis un peu perdue puisque les enfants étaient là.
Là, ce que tu évoques, c'est la spécificité, en fait, de cet outil, voilà. Qui parce que c'est de l'oral, on a l'impression, on va dire, que la prise de parole est beaucoup plus simple et que on va pouvoir se saisir, en fait, de ça pour pouvoir écrire et garder des traces plus facilement.
Oui, voilà, mais en fait, c'est une question qui a été mise en tension dans le livre parce que, en fait, c'est important de rappeler que le micro n'est pas un dispositif magique et qu'en fait, il va pas venir soudainement effacer les rapports de domination dans la prise de parole. En fait, finalement, bien sûr, certaines personnes sont plus à l'aise que d'autres avec la prise de parole à l'oral. Et donc voilà, nous, on a voulu observer un peu cette tension, à la fois de dire la radio comme média symbolique de cette prise de parole pour les féministes, on va plus taire, on va s'exprimer en notre propre nom, etc. Développement des subjectivités à l'antenne avec la voix. Et en même temps, comment est-ce que ce dispositif rejoue aussi certaines dynamiques de domination. Et ça, c'est très bien expliqué, notamment par l'article de Ingrid Heiss dans le livre, où elle observe le cas de Radio Lorraine Cœur d'Acier, qui était donc une radio mixte, qui a émergé dans le contexte des luttes des sidérurgistes lorrains dans l'est de la France. Et elle vient montrer en quoi les femmes se feraient une place vraiment en poussant, quoi. En fait, on leur a pas vraiment donné la parole, malgré ce que l'histoire raconte. Elles l'ont prise. Et c'est cette tension-là qu'on avait envie d'observer dans le livre.
Et peut-être qu'on peut écouter un petit morceau d'un extrait de l'émission des Nanas Radioteuses qui a été diffusée sur Radio Tomate, où justement plusieurs féministes qui participent à des émissions féministes discutent entre elles de « mais en fait, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» une radio féministe, qu'est-ce que ça veut dire en fait une radio de femmes, quoi.
Oui, par rapport à, au rapport qu'une radio féministe peut avoir avec le mouvement ou ce qu'il en reste, ou ce qu'il est devenu, c'est aussi un des problèmes qu'on a à Genève, qu'à la pleine lune. Donc nous, on était toutes issues du mouvement féministe, on était très partie prenante du mouvement pendant les 10 ans du boom du mouvement. Alors là aussi, on a essayé un peu d'analyser la crise, et puis on s'est dit, bon, effectivement, le mouvement organisé comme lieu de... Les lieux de femmes, ils sont désertés. La maison des femmes qui s'appelle le Centre Femmes à Genève est un lieu très triste. On n'y va pas. Il y a peu, bon, le mouvement, par exemple, sur l'avortement, où il se passe plus ou moins la même chose qu'ici. C'est-à-dire que en Suisse, il y a un système d'initiatives qui sont lancées. Et il y a une nouvelle initiative sur l'avortement qui ne comprend plus la gratuité, le remboursement par les caisses maladies. Donc on voit dessiner les mêmes choses. Et là, il y a le mouvement des femmes, classique, il est complètement essoufflé sur ce thème et il n'a pas la force de réagir. Donc il y a le mouvement classique, entre guillemets, il est effectivement assez en crise. Mais on a vu qu'il y a plein de choses de femmes. Il y a plein de choses de femmes, il y a plein de petits groupes, de petites choses qui se passent par-ci, par-là. Par exemple, une des choses qui nous a beaucoup plu, c'est qu'à Genève, il y a par exemple un mouvement d'occupation des maisons assez fort. Et dans ce mouvement d'occupation, il y a un groupe de femmes.
Les squats.
Les squats. Et il y a un groupe de femmes qui est en train de squatter, qui squattent un immeuble. Disons, elles squattent un étage. Et maintenant, elles vont squatter un immeuble en tant que femmes. Ça s'appelle le squat femmes. Donc, il y a des initiatives de femmes qui sont des initiatives autonomes, mais qui ne sont pas issues de ce qu'était le mouvement.
Mmh.
Donc ces initiatives, elles existent, elles nous plaisent, et nous, on a essayé de leur donner de la place à la radio, mais on ne voyait pas, et on ne voit toujours pas, et c'est un problème qu'on se pose, et puis on se demande comment les autres, vous le posez, comment la radio, qui est un instrument qu'on écoute, qu'on fait un peu seul, et qu'on écoute plus ou moins seul, peut être un instrument de regroupement de toutes ces choses éclatées. Alors, on s'est dit qu'en fait, il y avait un problème à ce niveau-là. On voyait que la radio, on pensait que c'était un instrument très très fort de potentialité, mais qu'actuellement, c'était pas un moyen qui était un moyen de regroupement déjà physique, puisque les gens qui l'écoutent, les femmes qui l'écoutent, elles l'écoutent seules, quoi. Alors, disons, on a pour l'instant, l'idée qu'on a et qu'on a eue, c'était d'utiliser que la radio soit le lieu où ces femmes s'expriment, où elles disent ce qu'elles font, on dit les rendez-vous et tout. Mais après, disons, ouais, physiquement, c'est pas du tout un lieu de rapprochement.
Et ce qui est interrogé là un peu, c'est le rôle de l'outil radio, en fait, au sein du mouvement. Est-ce que c'est justement un simple outil d'intervention politique lié justement au service des luttes, lié à une actualité, des manifestations, etc. Est-ce que c'est un espace d'affirmation, de subjectivation politico-culturelle pour des femmes? Est-ce qu'il s'agit, on va dire, d'avoir un espace de débat? Et il est vrai que sur la question, où quand elles affirment en gros que c'est pas un lieu de rapprochement, nous, on pourrait peut-être se dire que c'est aussi un outil qui va permettre de circuler au sein d'un mouvement, quoi. C'est-à-dire de façon interne, mais entre les pays, etc. Et donc aussi, ce qui est intéressant, et dans la préface de Juliette, mais aussi dans ton article, Géraldine, c'est que tu soulignes l'importance, en fait, de considérer l'outil radio comme un dispositif technique dans des matérialités. C'est-à-dire que c'est pas juste un outil, encore une fois, un outil magique, et que c'est en soulignant en fait ces aspects-là et en essayant de les décortiquer qu'on arrive aussi à comprendre mais qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que ça vient créer et comment on peut ou pas le subvertir et comment l'outil radio vient ou pas, on va dire effacer ou en tout cas essayer de rendre moindre des rapports sociaux de domination. Et est-ce que tu peux, toi, Géraldine, juste parce que je trouve que c'est hyper intéressant, à partir de Radio Pleine Lune, nous raconter en fait justement toute cette dimension matérielle et comment elle a été primordiale justement dans leur expérience, quoi, notamment par rapport à Radio Zone.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, je peux faire un peu l'historique de l'émission que j'ai pas encore fait, mais donc, en gros, je l'ai dit avant, l'émission, elle est créée en 79 environ. Elle est créée par des femmes qui sont vraiment actives au sein du MLF et qui ont déjà une expérience de médias à travers la publication d'une revue qui s'appelait L'Insoumise. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est un peu, enfin, c'est pas si anecdotique. En fait, ce qui est intéressant, c'est que à L'Insoumise, elles avaient des liens très forts avec l'Italie, avec des féministes italiennes et notamment avec des féministes à Padoue qui étaient très impliquées dans une lutte qui s'appelle la lutte pour le salaire au travail ménager. Je vais pas rentrer dans les détails. Je pense que plein de gens ont déjà entendu parler. Mais en gros, ce qu'elles ont décidé de faire, ces femmes, à l'époque, dans le milieu des années 70, elles ont essayé d'importer en fait cette revendication dans le milieu genevois et d'essayer de la rendre active dans leur contexte de lutte. Bon, ça n'a pas vraiment marché, malheureusement. Et donc, elles se sont détournées du média papier et elles ont décidé de commencer à faire de la radio. Je pense qu'elles viennent faire de la radio, elles le disent un peu dans l'extrait, là, aussi dans un moment de crise, disons, où elles arrivent plus très bien. En fait, c'est le moment où c'est la fin des grandes années d'assemblée du MLF. C'est la même chose qu'en France, hein. C'est plus ou moins la même chronologie, quoi. Et donc, elles essayent de remettre du sens dans leur lutte. Et elles font 5 émissions pirates qui sont brouillées par les autorités. Et en fait, il se passe un truc assez intéressant, c'est que donc en 1981, Mitterrand est élu. Et comme vous le savez peut-être, la question de la libéralisation des ondes, qui donc est monopolisée par l'État hein, jusqu'en 1981, faisait partie de ses promesses de campagne. Et donc il tient cette promesse, parce que il tient pas cette promesse magiquement, il tient cette promesse parce qu'il y a un mouvement très très actif de pirates qui vraiment se battent pour faire leur place sur les ondes, et donc il libéralise les ondes. Et en fait, cette libéralisation en Suisse, elle arrive plus tard, elle arrive en 83. Et donc, il y a un groupe de gens à Genève qui se disent « Ah, mais génial, en fait, les ondes, elles vont pas être coincées par la frontière, donc on va aller ouvrir une station juste à côté de Genève, dans le pays de Gex, dans une ville qui s'appelle Ferney-Voltaire. » Et en fait, les femmes de la Pleine Lune, elles faisaient leur émission pirate et elles avaient un émetteur, parce qu'elles étaient en lien avec les féministes italiennes. Donc voilà, j'en viens enfin à la question technique et matérielle. Elles possédaient un émetteur, puisque c'est donc des technologies qui étaient de plus en plus légères à cette époque-là, et elles avaient acheté cet émetteur en Italie. J'ai l'impression que beaucoup de militants de l'époque ont fait ça. Et donc elles ont réussi à négocier en fait un espace qui leur est propre sur les ondes de cette station qui va s'appeler Radiozone et qui est fondée en 1981. Et en fait, elles s'octroient un jour entier, qui est le mercredi, et pendant 20 ans, elles vont faire tous les mercredis leur émission de radio féministe. Et donc voilà, c'est pour montrer que bon, on pourrait dire beaucoup de choses aussi sur ces questions techniques, sur la façon dont elles vont apprendre en fait et s'approprier les outils. Moi, en fait, finalement, l'émission nous en dit assez peu, mais je pense que c'est un enjeu de recherche vraiment très intéressant. Mais voilà, en tout cas, elles ont réussi à négocier leur place grâce à cet émetteur. Et c'est une anecdote un peu drôle.
Et là, Juliette, toi aussi, tu t'es extrêmement confrontée aux questions des matérialités. Tu t'es confrontée à la question des dominations multiples, diverses, à l'intérieur aussi des radios libres, ce qui passe aussi par s'affronter, confronter à la question du partage des savoirs, des matérialités. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui. En fait, la première chose qui m'a marquée quand même quand je suis arrivée dans les radios libres, c'est que tout le monde était invité à assurer tous les rôles. Que ce soit faire de la technique, faire du plateau, faire des reportages en manif. La transmission de ce côté-là, elle était, pour moi, c'était une petite utopie, en fait, que j'ai découvert ça. Et qu'il n'y avait pas, c'était vraiment une grosse démarcation par rapport à la façon de concevoir le métier de producteur, productrice dans les radios professionnelles, où les rôles sont extrêmement compartimentés, avec des spécialisations extrêmement fortes, qui en découlent. Après cette transmission-là, j'ai vu aussi qu'elle s'arrêtait à un moment donné. Enfin, qu'elle était cadrée, elle était dans un certain contexte et on pouvait pas sortir en fait de ces frontières-là. C'est-à-dire, pour en sortir, il fallait également questionner, comment est-ce qu'on prend les décisions il y a un conflit entre deux émissions, ça peut arriver. Comment est-ce qu'on gère ce conflit? Est-ce que c'est une direction qui va le gérer, ou bien est-ce que c'est on crée une instance où les émissions entre elles peuvent discuter? Qu'est-ce qu'on fait en fait des archives de chaque émission? Il y a les radios en France qui sont autorisées à émettre, elles ont une obligation légale en fait de pouvoir présenter toutes leurs archives à l'époque au CSA et aujourd'hui à la nouvelle instance, j'ai oublié son nom parce que j'ai plus suivi. Mais voilà, l'autorité de tutelle. Mais ça ne permet en rien de faire circuler ces archives d'une radio à l'autre, etc. De la même façon, il y avait la reproduction en fait de spécialisations essentialisantes en fait de genre dans certaines pratiques de la radio. Par exemple, il y avait plus en fait des gars qui allaient s'occuper de la technique, y compris dans des émissions où il y avait des meufs. Donc, comment est-ce qu'on fait réellement en fait? Comment est-ce qu'on casse vraiment ces formes de domination qui ont tendance à se reproduire si on ne va pas activement chercher à les déjouer sans cesse. Et du coup, il y a vraiment et puis, bon, il y a aussi le problème de la partition dans les radios associatives en France entre les salariés et les bénévoles qui n'ont pas forcément, selon les radios, les mêmes capacités d'agir, en fait, sur l'antenne. Et du coup, dans les années 2000, enfin ça c'est des réflexions que je livre là, mais qui étaient partagées en fait par tout un petit groupe où on faisait partie de plusieurs radios associatives, et je pense notamment à Radio Canu et à Canal Sud, et enfin Radio Canu, Canal Sud, et moi j'étais à FPP à l'époque, et ensuite Radio Galère, Radio Zinzine, d'autres. Où on essayait en fait de recréer de la transversalité là où il y avait auparavant plutôt une structuration en différentes chapelles radiophoniques. Chacun défendant, je mets au masculin parce que c'est beaucoup des hommes cis blancs qui en fait qui sont restés directeurs d'antenne pendant très longtemps des radios associatives. C'est toujours beaucoup le cas avec voilà des modes de fonctionnement finalement très très verticaux, en fait, dans pas mal de radios. Et au contraire, des radios qui réfléchissent. Par exemple, Radio Canu, qui a opté pour l'autogestion complète, jamais aucun salarié. Et il y a une cotisation à payer qui est plus élevée, en fait, que dans les autres radios pour assurer un autofinancement de la radio, etc., etc. Et tous ces questionnements-là, on les partageait. Et ça nous a amené à créer des outils pour créer de la transversalité, pour créer beaucoup plus de dialogue entre eux. Alors, on voyait bien que les directions d'antenne ne voulaient pas dialoguer, en réalité, ou elles le faisaient très peu. En revanche, les émissions étaient très désireuses d'échanger des programmes, d'échanger des idées. Et il y avait déjà, de façon informelle, beaucoup de dialogue. Par exemple, je pense entre les émissions anticarcérales dans différentes radios associatives en France. Et on a mis en place des outils pour favoriser ça, en fait, le structurer davantage. Parmi ces outils, il y avait déjà en interne le fait d'assurer des formations pour que tout le monde puisse, enfin, sache monter un site web facilement et archiver ses podcasts dessus. Voilà, pour favoriser la circulation et la mémoire de chaque émission. Également, comme outil, comme plateforme collective, on avait mis en place Son en lutte, qui était dans l'idée de, quand il y a, par exemple, quand il y a un mouvement social, que FPP puisse directement avoir un reportage en fait qui arrive de Toulouse ou de Lyon, et inversement, et de pouvoir aussi, quand on fait des émissions thématiques, pouvoir directement aller rechercher dans les archives de Son en lutte. Ce qu'on produit plein d'autres émissions dans ces différentes radios. Et il y avait également des rencontres régulières pour faire de l'auto-formation, se filer des outils techniques, etc., etc. Un autre outil qu'on avait mis en place, ça c'était un groupe un petit peu différent, c'était le Perce-Oreille, qui faisait des sélections d'émissions de radio ou bien de création sonore, dans l'idée vraiment de... on avait choisi le perce-oreille, c'était pour percer les oreilles, quoi, vraiment pour déverrouiller en fait les manières d'écouter qui étaient trop formatées à notre goût, et du coup d'aller un petit peu secouer tout le monde, à la fois politiquement et formellement, et que il y ait davantage en fait dans les radios associatives de travail en fait à la fois sur la mémoire de la radio et en fonction de la mémoire de la radio, de pas sans cesse réinventer l'eau chaude, ce qui après a pu se reproduire, mais alors à une intensité 10 000 fois plus forte dans le podcast industriel, de, voilà, comme si on faisait sans cesse de la nouveauté, quoi, qui avait aucune histoire de la production sonore. Et puis de faire beaucoup plus attention en fait à la quel format on donne à nos émissions, parce que les formats sont politiques et on va utiliser par exemple un format de plateau en face à face sans savoir que l'histoire de ce format là il est très héritier d'une histoire de la radio dominante et qu'on est en train juste de vouloir transformer en tant que bénévole et en tant que militante, d'utiliser des outils dominants, en réalité, pour se donner un vernis de sérieux, de professionnalisation. Et qu'il y a d'autres manières, en fait, d'arriver à faire une radio hyper pointue, hyper intéressante, et qui va réellement tenter de, voilà, de modifier des choses, en fait, dans l'ordre du réel, en cassant les formats, en les réfléchissant, et puis en échangeant, en dialoguant, quoi. Et puis un des autres outils, mais je ne sais pas si j'en parle tout de suite, qui a été créé par un autre groupe, c'est la plateforme Radio Rageuse. Mais peut-être m'en parlera après.
Non, vas-y, parle-nous des Radio Rageuses, qui est une expérience française extrêmement intéressante, vivante et importante.
Oui, c'est une plateforme de LGBT, de meufs, c'est une plateforme féministe, trans, Gwyn. Et elle a été créée en 2009 à l'initiative de plusieurs émissions dans des radios associatives qui ont commencé, qui étaient déjà en fait comme les émissions anticarcérales. Pour moi, en fait, c'était beaucoup les émissions anticarcérales et les émissions féministes qui déjà créaient des liens entre elles, malgré les frontières que mettaient les directions d'antenne. Et qui ont commencé, qui se faisaient beaucoup d'échanges de savoir, d'échanges de pratiques, et qui ont voulu le formaliser à travers une plateforme qui est toujours existante aujourd'hui sur radiorageuse.net et qui s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, les émissions historiques de départ, je pense qu'elles sont, un certain nombre sont toujours là, mais il y en a plein d'autres en fait qui sont arrivées. Et alors moi, j'en fais pas partie. J'ai accompagné un peu le chemin au tout début, au niveau technique justement, au niveau du web. Mais j'ai pas pris part en tant que telle à la plateforme. Et mais j'ai continué à suivre parce que il y a un certain nombre de copines dedans, quoi. Et avec une grosse réflexion en permanence en fait sur comment est-ce qu'on s'organise. Et notamment, il y a eu le choix de faire des rencontres annuelles, en fait, des radios rageuses, à l'occasion desquelles il y a des grandes sessions de discussion, il y a des sessions des ateliers pratiques, il y a des nuits de la radio en direct. Ça produit beaucoup de choses aussi, la radio en direct, enfin, autant que les archives, d'ailleurs. Faire de la radio ensemble, c'est quelque chose qui... où je serais en désaccord avec la femme de Radio Pleine Lune tout à l'heure, qui rassemble, en fait... Mais c'est l'énergie de faire de la radio en direct aussi, ça donne ça. Et du coup, Radio Rageuse, c'est aussi une plateforme avec plein de podcasts où on peut, qui est vraiment devenue réellement une base d'archives assez considérable sur l'évolution des luttes féministes et LGBT en France, quoi. Enfin, en France et au-delà, dans laquelle on peut aller puiser des heures et des heures d'écoute, quoi.
Et si je peux ajouter, j'ai l'impression aussi qu'une des fonctions des radios rageuses, c'est que c'est une fonction d'archive importante, mais c'est à la fois un outil communautaire qui permet de poser des réflexions, d'autres émissions l'écoutent, presque elles se répondent. Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment comme si c'était un grand laboratoire de discussion aussi, à travers les émissions qui participent à cette plateforme. Et pour dire, c'était un peu aussi grâce à des expériences comme celle des Radio Rageuses, mais aussi des expériences comme celle des Radio Libres, des rencontres des Radio Libres, où il y a du partage des savoirs, que ça a permis à plusieurs personnes de prendre la parole. Par exemple, à titre personnel, si je me suis investie dans les studios son de la parole errante, c'est parce que j'ai eu avant la possibilité de partager des moments de partage des savoirs et donc de démystifier la côté d'être derrière un micro. C'est quand même des moments qui donnent beaucoup de courage et parce que c'est une forme d'horizontalité dans la possibilité d'accéder. En tout cas, c'est démystifié. Ça montre que c'est pas les grands experts qui peuvent arriver à ça. Et donc, avec les studios son, cette année, ça va être la troisième année, on a organisé aussi des rencontres radio DIY. C'est le moment de partage des savoirs. On a commencé il y a 2 ans, un jour, au partage des savoirs, fabrication collective d'une émission. L'année dernière, on est passé à 2 jours. Et il y aura une autre rencontre cette année, les 12 et 13, le week-end du 12 et 13 juin, ouvert à toutes les personnes qui ont envie de partager ça avec nous. Et d'ailleurs, dans la première année, on avait proposé les thèmes radio libre et on avait beaucoup utilisé les archives de l'intempestive. Merci.
J'ai oublié un truc sur Radio Rageuse que je voudrais préciser. Excuse-moi, Géraldine. C'est le fait, en fait, que les émissions féministes qui ont composé Radio Rageuse au départ, plusieurs étaient vraiment soit en conflit ouvert, soit en désaccord avec la manière de fonctionner de leur radio, quoi. Et que, justement, tu parlais de la recherche d'horizontalité. Elles ont vraiment mis ça en place. Et qu'il y a un truc aussi de dire, bah, on n'en veut pas, en fait, d'un fonctionnement, en gros, patriarcal. Et on va essayer de mettre en place une autre manière de fonctionner entre nous. Et elles se sont, pour moi, c'est pas un hasard, en fait, si c'est des émissions féministes qui ont créé une grosse plateforme en dehors, en fait, du fonctionnement courant des antennes. Et une des émissions, d'ailleurs, fondatrices de Radio Rageuse, Dégenrée, quelques années plus tard, enfin 9 ans plus tard, elle s'est fait virer, en fait, de sa radio. Parce que avec 2 autres émissions, une émission anticarcérale et une émission sur les luttes locales, toutes les 3 ont été virées en même temps parce qu'elles étaient considérées comme portant un discours trop radical, alors qu'elles étaient sur l'antenne depuis au moins 10 ans, quoi. Du coup, une plateforme comme Radio Rageuse, en tant que telle, en fait, c'est un outil de légitimation de la parole. De certaines personnes et de certains discours, quoi. Les deux. Et hyper importante pour ça.
Oui, en fait, pour réagir à ce que tu viens de dire, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que cette trace du conflit, elle est vraiment visible, en tout cas dans les archives qu'on conserve, et elle est aussi abordée dans les autres archives que les personnes qui ont rédigé les articles du livre ont consulté. La plupart des animatrices de ces émissions, elles sont en conflit avec les hommes de leur station, quoi, c'est sûr. Et donc, elles, en général, elles produisent les émissions en non-mixité. Et je voulais parler de l'importance des archives papier, parce qu'on en a parlé très rapidement avant, mais en tout cas, pour moi qui me suis occupée du catalogage des émissions de radio, donc en gros j'ai décrit les émissions pour les rendre accessibles, et ben les archives papier, elles ont été extrêmement précieuses et elles m'ont permis de reconstituer notamment la chronologie des émissions. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que en fait, il y a aussi de la correspondance. Il y a de la correspondance interne entre les femmes de la Pleine Lune et le reste du collectif de Radio Zone. Et il y a notamment tout un échange extrêmement intéressant sur un conflit autour de la façon de traiter l'actualité au sein de la radio. En fait, les personnes de Radio Zone proposent de créer un collectif de rédaction des nouvelles, parce qu'il y a en gros 3 bulletins d'infos par semaine sur la station. Et les femmes, elles disent « Non, mais nous, on va pas y participer, en fait, parce que déjà, on veut pas être votre conscience féministe, et puis surtout, on veut produire notre propre information. » Et c'est intéressant, parce que ces archives papier, elles permettent de voir ce qui se passe à l'interne. Et en fait, ces moments... Enfin, c'est pas des choses qu'on peut entendre dans les émissions, malheureusement. C'est que des choses qu'on peut accéder par l'archive papier, quoi. Et en ce sens-là, je trouve que l'émission de Radio Tomate, elle a un statut un peu intermédiaire. On n'a pas trop décrit la source, mais c'est une source intéressante parce qu'elle permet de voir en live des réflexions très méta, en fait, sur qu'est-ce que c'est que cette pratique. L'émission, elle s'appelle « Qu'est-ce que faire une radio de femme ?» Et donc voilà, c'est assez inspirant, je trouve. Elle dure quand même 2 heures. Enfin, on a écouté un très petit extrait. Et il y en a plusieurs des émissions comme ça dans ces archives, et elles sont extrêmement riches aussi pour des réflexions contemporaines, quoi. Et puis la dernière chose que je voulais te dire, c'est que je pense qu'effectivement Radio Rageuse, c'est vraiment, ça semble être la chose dont tout le monde souhaitait à l'époque aussi. Mais ce qui est intéressant, encore une fois pour faire le lien avec le papier, aux archives contestataires, on conserve une espèce de catalogue qui avait été réalisé par une féministe danoise dont je me rappelle malheureusement plus le nom, qui a fait un tour d'Europe et qui a répertorié toutes les émissions féministes. Et donc, il y a des dizaines d'émissions féministes dont on n'a absolument aucune trace, d'un point de vue d'archives, quoi, mais qui ouvrent des perspectives de recherche immenses, et qui est déjà aussi une sorte de première tentative de mise en réseau, quoi. Voilà, ça, c'est intéressant.
On est en direct du 102 rue d'Alembert, où il y a beaucoup d'ambiance, pour 4 heures d'antenne de Radio Rageuse. Radio Rageuse, qu'est-ce que c'est? Une nébuleuse d'émissions féministes, de meufs, de gouines, de trans et de femmes. Alors, Radio Rajas, c'est un réseau d'émissions et une plateforme qui met des étincelles sur vos ondes et qui, depuis mercredi, fait sa rencontre annuelle. Alors, j'ai avec moi Marina et Béné de l'organisation.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, les filles. Merci pour avoir organisé tout ça, parce que bah, moi, c'est la première fois que je viens à la rencontre et j'avoue que c'est très intéressant et fun aussi. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. D'abord, quel est le nombre de collectifs représentés pendant ces rencontres ?
Alors, ben, a priori, on a compté un peu vite fait, mais on dirait qu'il y a en tout cas 16 émissions qui sont représentées ce soir, enfin, pendant ces rencontres.
Vous pouvez nous donner quelques noms ?
Oui.
Alors, nous, du coup, déjà, on est l'émission Dégenrée à Grenoble et c'est nous qui organisons ces rencontres. Donc, je nous cite en premier. Après, il y a Lilith Martin et les autres de Lyon.
On n'est pas des cadeaux. Le Gang des Gazières.
Voyelle de Toulouse.
Calibre de Marseille.
Fréquence Furie Furieuse.
La fille à la fenêtre d'Ariège.
Ta voisine est féministe, d'Ariège aussi.
Tapage exquis.
J'ai envie de citer aussi les collectifs qui sont pas avec nous pendant ces rencontres parce qu'elles ont pas pu venir mais qui font quand même partie du réseau et qui sont importantes. Donc il y a Langue de Fronde de Paris, Comme un poisson sans bicyclette de Fort-Calquier et les Cyprinettes Vouguettes de Millau. Et c'est possible qu'on ait oublié des
On a oublié Jean Rage aussi de Lille.
Et
c'est les génial. Chroniques mutantes de Bruxelles.
Alors c'est bien parce qu'il y a un applaudimètre dehors, donc on peut voir la popularité des émissions. Non, plus sérieusement, ces rencontres Radio Rageuses, c'est vraiment un moment hyper important pour le réseau de se réunir, de pouvoir échanger des savoirs, de pouvoir se soutenir dans nos pratiques radiophoniques. Parce que voilà, en tant que féministe aussi, ben, des fois on est dans des radios plus ou moins féministes friendly et c'est aussi important de se soutenir dans nos pratiques radio dans ces cadres-là. Et puis aussi, ce qu'il faut citer, c'est que là, on a cité les collectifs, mais il y a aussi plein de féministes qui font de la radio toutes seules ou dans des émissions qui sont pas des émissions féministes, qui sont des émissions anticarcérales, qui sont des émissions anticapitalistes, j'en sais rien, plein d'émissions. Et du coup, c'est aussi important pour nous qu'elles puissent venir aux rencontres du réseau pour se renforcer et pour retrouver de la force pour continuer à faire de la radio.
Et pour finir, donc l'extrait qu'on vient d'écouter date de 2018 et on est en pleine explosion à ce moment-là, donc quand même médiatique du podcast. C'est important ça parce que c'est la fin aussi de la préface et c'est une vraie question qui nous anime sur la question de l'ambivalence du moment dans lequel on est quoi. Parce que d'un côté, on a donc cette explosion de contenu, d'émissions notamment féministes autour des luttes sociales et donc une forme, on va dire avec les podcasts, de popularisation en fait de la pratique de l'écoute radiophonique. Et en même temps, tu parles toi Juliette de la possibilité que cette explosion vienne effacer une longue histoire. Donc en l'occurrence qui serait la nôtre, en tout cas l'histoire voilà des radios militantes, des radios libres, des radios pirates. Et la question voilà qu'on aimerait te poser à toi Géraldine, mais aussi pour le coup avoir une forme d'échange comme ça tous et toutes là maintenant, c'est sur quel geste en fait pour continuer avec la radio à fabriquer justement notre récit commun. Quoi.
Je rebondirai sur la phrase qu'a eu Géraldine tout à l'heure. Le micro n'est pas magique. En fait, le micro en tant que tel n'est pas un outil de libération. L'écoute non plus en tant que tel n'est pas un outil de libération. Et ils sont intégrés dans des schémas technologiques, des schémas historiques, des schémas idéologiques. Et si jamais on prétend les essentialiser, en fait, parler par exemple du son comme ah ben le son c'est merveilleux quoi, le son c'est la liberté ou bien le son c'est l'intimité etc. On rentre dans ce que bah il y a un historien des médias qui vient de décéder, Jonathan Stern, qui parle de litanie audiovisuelle sur le fait qu'on attribue en fait que ce soit à l'image au cinéma ou à la radio au podcast, du coup, des sortes de propriétés fondamentales, en fait. Voilà, le son, ça permettrait d'accéder à l'intimité, et puis de dire... ou bien d'être entre potes, etc. Tandis que l'image, ça véhiculerait d'autres choses, plus de l'ordre de la rationalité ou autre. Mais en fait, il faut vraiment se défier de ça, quoi, et toujours les concevoir dans un rapport de, dans des rapports comme des constructions sociales. En fait, ce micro là, le haut-parleur derrière, sont des constructions technologiques et sociales qui ont une très longue histoire. Et il faut les utiliser en sachant ça, quoi, et en l'utilisant et en le déjouant, en le détournant, enfin en le déjouant sans cesse. Effectivement, je parle du bulldozer industriel, du podcast industriel qui déboule sur nos pratiques, parce que en 2015, en fait, quand le podcast industriel a commencé à émerger, moi, ça faisait 10 ans que je militais pour que les gens écoutent un peu plus. Il n'y avait pas vraiment, pour moi, assez de prise en compte de toutes les productions sonores et radiophoniques. Et il y a pourtant une richesse énorme, quoi. Et je faisais déjà, depuis quelques années, pour la revue Saint-Aune, hein, tout un travail aussi de plonger dans les archives de l'INA pour aller écouter, en fait, ce qui s'est produit depuis... Enfin, la radio, elle a commencé au début du XXe siècle, quoi. C'est une histoire qui est déjà longue, en réalité. Et que le podcast industriel a voulu effacer, quoi, avec y compris un slogan qui était brandi par le Paris Podcast Festival, c'était « c'est du podcast, c'est pas de la radio ». En fait, je trouvais ça juste consternant, en fait. C'est vraiment la volonté de se dissocier, en fait, d'une histoire. Et alors, certes, ce sont des médias... Enfin, le podcast est un média en tant que tel, ça, je suis d'accord avec ça, qui a des codes... et des outils et des formats qui sont distincts de ceux de la radio. Mais pourtant, en fait, ça s'inscrit quand même dans des généalogies qui sont en partie communes. Et le nier, en fait, ça porte préjudice à plein de luttes qui ont préexisté, de paroles qui ont préexisté. Voilà, je trouve que de revendiquer, en fait, sans cesse une révolution à la fois matérielle et idéologique, comme si on allait brandir la chose qu'elle allait tout solutionner d'un seul coup, c'est en réalité, c'est un outil réactionnaire, quoi. C'est un outil d'absence fondamentale de changement. Après, comment est-ce que, du coup, on fait... au début, j'étais un peu... pas seulement moi, hein, d'autres personnes au sein de Saint-Aune, par exemple... On a été un peu découragés, en fait, quand on a vu que tout à coup, il y avait une certaine rareté, en fait, des productions ou des écoutes jusque-là. Une rareté, en tout cas, qui était déjà assez illusoire, parce que si on rentre dans les archives de l'INA, là, tout à coup, il y a déjà bien trop de choses à écouter par rapport à ce qu'une vie humaine permet d'écouter. Et je parle que des supports radiophoniques, il y a aussi tous les supports qui étaient gravés sur disque. Enfin, voilà, déjà en 1930, il y avait trop de choses à écouter, en réalité. Donc il y a une phase un petit peu de découragement, en fait, de constater ça. Mais finalement, aujourd'hui, ce que je perçois aussi, c'est que le podcast industriel est arrivé, mais avec lui aussi le podcast indépendant, qui lui a d'ailleurs préexisté, qui a commencé à émerger à partir du moment où le web s'est installé, à partir des années 2000, avec toute une culture qui lui est propre. Qui est aujourd'hui très vivace, qui a donné lieu, par exemple, je pense à tous les personnes, en fait, qui ont fait des fictions autoproduites au sein de ce qui s'est nommé la Sagasphère, qui se nomme toujours plus ou moins la Sagasphère, qui est une communauté en ligne de personnes qui autoproduisent et autodiffusent des fictions audio, ont monté un festival. Ça donne aujourd'hui des festivals comme La Nuit sans Images ou des choses comme ça, en fait, ça, et puis avec des croisements avec d'autres champs de production qui sont super intéressants. De la même façon, quand on fait un podcast dans sa cuisine avec un petit zoom et qu'on partage avec d'autres personnes, est-ce que c'est tellement différent d'une pratique d'avoir un petit émetteur qu'on va aller planter quelque part? En fait, on utilise les outils de son époque. Après, il faut les recontextualiser et pas prétendre, en fait, qu'ils surgissent de nulle part et qui ne s'inscrivent pas, en fait, dans une longue histoire. Et aujourd'hui, je suis plus c'est ce que je dis, en fait, à la fin de la préface, que On voit aussi en fait ce qui a perduré après le voilà ce raz-de-marée ou ce bulldozer qui est arrivé sur nos pratiques. Les radios libres, elles sont toujours là. Je pense qu'elles jouent un rôle sans doute différent, qu'elles auraient beaucoup à gagner, elles et le podcast indépendant, à travailler davantage ensemble, en fait, en termes de mutualisation d'outils, de mutualisation de pratiques, même s'il y a des cultures sonores qui sont différentes entre ces deux champs, qui est davantage de dialogue, de métissage, en fait, qui se fasse entre ces différentes communautés. Et les radios libres continuent, sur la réforme des retraites, la lutte contre la réforme des retraites en 2019, ça a été vraiment frappant. On avait créé un collectif qui s'appelait La Centrale, L'A Centrale, où c'était à la fois qui réunissait aussi bien des radios, alors pour le coup plutôt des émissions de radio que des directions d'antenne. Encore une fois, on passe voilà pas par la hiérarchie, mais directement par les différentes émissions, mais aussi bien des émissions que des collectifs qui produisaient du podcast indépendant, que des personnes qui étaient isolées dans leur coin, que d'autres formes de structures, en fait. Et tout le monde s'est associé pour essayer de faire un peu ce que Son en lutte avait aussi fait à une époque, en fait, donner accès à tout ce qui se produisait au niveau local, et le partager le plus possible. Et c'était un super moment, en fait, quand on était dans les manifs, on savait que telle manif allait être couverte en direct et que, simultanément, il y avait telle autre qui allait prendre le relais quelques heures plus tard, selon les heures de manif dans les villes. Et c'était vraiment très, très stimulant à faire. Et ça, s'appuyer sur à la fois la richesse de l'histoire de la radio et puis la force aussi de l'histoire du podcast, l'histoire plus récente du podcast, ça permettait de faire cet outil hybride qui permettait juste d'inventer d'autres formes de lutte qui sont adaptées à aujourd'hui, quoi.
En fait, je voulais aller dans le même sens que ce que tu disais par rapport... Enfin, quand tu disais que le micro n'était pas magique, moi, je pense que la mise en garde ou, disons, l'attention que tu décris à avoir en tant que producteur, productrice de podcast, c'est la même, en fait, qu'on invite à avoir pour la consultation des sources. Enfin, c'est qu'en fait, c'est assez fascinant d'entendre des gens comme ça qui parlent à la radio, d'accéder à ces archives sonores. C'est vrai qu'on a aussi cette même impression qu'il y a quelque chose de plus, quoi, que l'écrit. Et en fait, je voulais simplement dire que c'est la même chose pour l'étude des sources. Et en fait, pour réexpliquer pourquoi on avait invité Juliette à participer au livre, c'est que, en fait, on t'a invité à animer des ateliers d'écoute sonore, écoute critique, c'est comme ça que tu l'appelles. Et c'était un moment super intéressant parce que l'exercice, c'est d'écouter plusieurs fois une même source sans avoir beaucoup d'informations sur d'où elle provient, qu'est-ce qu'elle est, et de vraiment se questionner sur ça, sur qu'est-ce qu'on peut comprendre du contexte de production de cette source, en fait. Et je pense que ça a été une expérience très enrichissante et je pense que oui, c'est aussi l'étude de ces sources, elle permet, en fait. On espère, avec les archives contestataires, que l'étude de ces sources, elle permettra aux producteurs et aux productrices de ces émissions de radio de se poser la question de la façon dont cette parole ne doit pas être donnée, mais qu'elle peut simplement être prise sans médiation extérieure, quoi. Voilà.
Avant un petit échange, on s'était dit qu'on aurait bien terminé cette présentation avec la fin de l'introduction est écrite par Juliette, justement après les questionnements autour de l'arrivée du podcast industriel, des difficultés, de comment avancer et continuer. Et tu écris « Nous ne sommes jamais parvenus à être les médias, et tant mieux. Notre rôle se situe ailleurs. Nous transmettons des possibilités radicales. »
Extrait d'une citation de Bell Hooks, qui parle des marges, en fait, comme des lieux de création de possibilités radicales. Et l'autre référence, c'est celle au slogan de Indie Media, parce que moi, c'était le début de mon militantisme. Indie Media, qui était une plateforme web où on pouvait, pour la première fois, on parle des années 99-2000, on pouvait écrire librement sur Internet, et c'était publié, il y avait plein de personnes qui pouvaient le voir, c'était un moment étonnant. Et Indie Media disait ne haïssez pas les médias, soyez les médias. Et voilà, on a complètement foiré, quoi. On n'a absolument pas réussi à faire ça, mais heureusement, quoi, parce que je vois bien celles et ceux qui sont devenus les médias et
Voilà, je les envie pas et je pense pas qu'on travaille dans le même sens.
S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, c'est aussi, sinon possible, discuter ensuite en informel. Je sais pas quelle heure c'est. Ah, on est bien, on est complètement dans les timings. On assure, on est vraiment dans les timings prévus. Donc, il y a vraiment la place pour pouvoir poser des questions, voire échanger, exprimer des réflexions à partir de ce qu'on a raconté là.
Oui, bonsoir. Une question assez simple, c'est une question autour de l'AFM. On voit qu'il y a des nouveaux formats qui arrivent, web radio. Et donc, votre avis un peu sur l'AFM, ce que ça va devenir, ce que c'est encore, ce que ça n'est plus, est-ce que c'est une question qui se pose encore? En tout cas, c'est une question que moi je me pose et que beaucoup de radios se posent aussi, mais aussi dans la pratique, c'est-à-dire les gens écoutent-ils encore, y a-t-il encore une place pour l'AFM? Je pense que oui, c'est des questions qui sont en débat. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vais citer le travail d'un ami et artiste qui est sur la radio Pinode, qui s'appelle Nicolas Montgermont, qui a beaucoup travaillé sur le spectre électromagnétique et qui, lui, en fait, revendique vraiment non seulement de conserver le maximum de zones du spectre électromagnétique pour nous, en fait, pour un usage populaire, mais en plus d'en conquérir de nouveau. C'est-à-dire qu'une grande partie, en fait, de ce spectre, il est accaparé par des industries ou par les militaires. Et ça, c'est fait, en fait, sans concertation. En fait, ce sont des gammes de fréquences qui sont affectées automatiquement par l'État, enfin, automatiquement, après négociation et lobbying, qui sont affectées par l'État, en fait, à des industries un usage militaire, et que on pourrait au contraire repartir à l'offensive sur réclamer une réappropriation en fait du spectre électromagnétique au maximum pour des usages issus d'en bas en fait, autoproduits, autogérés. Après, pour moi, dans l'histoire des technologies, une nouvelle technologie ne va jamais supprimer l'ancienne. En fait, les deux coexistent. L'exemple fréquent, c'est que l'aspirateur n'a pas supprimé le balai. Donc pour moi, le podcast ne va pas supprimer l'AFM. Et l'AFM, c'est un outil magnifique. C'est super pour pirater, pour créer une zone de diffusion en fait, sur des espaces. Après, on peut réinventer d'autres formes d'écoute aussi. Et peut-être ça va inciter à davantage penser la radio, non pas simplement comme de l'émission d'influx où là, j'envoie ma voix dans un micro puis je laisse le reste se démerder. C'est au contraire, en fait, de penser à la réception de l'autre côté. Comment est-ce qu'on organise la réception de la radio de l'autre côté? Et de prendre davantage ça en ligne de compte, quoi. Ce qui se fait, par exemple, sur des rendez-vous où il y a, par exemple, une petite radio pirate qui va émettre sur la zone d'un événement, d'un rassemblement pour des luttes ou d'un festival ou je ne sais quoi, qui va émettre sur une petite zone et on placarde les rendez-vous, en fait, en disant, connectez-vous soit sur telle fréquence, soit sur tel site web. C'est pas grave, en fait, que ça coexiste, ces technologies. Je pense que ça peut se poursuivre. Après, par rapport au remplacement de l'AFM par le DAB, pour l'instant, ça fait un bout de temps que ça dure. Quand on nous a annoncé que l'AFM allait mourir demain, et puis c'est demain, et puis c'est encore demain, finalement, en fait, ça continue pour l'instant. Il y a des radios, et je pense notamment des radios dans le sud de la France, comme Radio Galère, Radio Zinzine, Radio Grenouille, qui se sont associées pour créer une coopérative de diffusion sur le DAB. Donc voilà, pareil, en fait, elles ont trouvé une manière de contourner des contraintes qui étaient posées par l'État en termes de diffusion, en gros en disant aux toutes petites radios, vous allez devoir vous marier bon gré mal gré avec des très grosses radios qui vont vous diffuser. Ben, en fait, elles ont trouvé un autre moyen de s'organiser pour assurer leur autonomie en termes de diffusion. Je pense qu'il y a plein de choses à inventer toujours dans le domaine de l'AFM et que ça ouvre plein, enfin ça continue à ouvrir beaucoup de pistes, quoi.
Par ailleurs, Pinade, qui t'a nommé, ont aussi une fréquence dans les DAB qui d'ailleurs ont rendu accessible aussi au studio son. Donc on a une forme, pas d'accord, parce que c'est une forme de partage où si on a envie de programmer des émissions, par exemple cette émission, si on a envie de l'enregistrement, de les programmer sur les DAB, c'est possible. Je connais pas beaucoup de personnes qui écoutent pour le moment les DAB. Ils ont demandé cette fréquence, je sais pas si on parle dans ces cas aussi des fréquences, et à grande surprise, ils ont eu une réponse positive, donc il y a eu la construction d'un grand émetteur, ce qui n'empêche pas que les émissions peuvent les envoyer dans des radios camarades, FM ou autres.
Bah, typiquement, Pinot s'est diffusé à la fois en DAB+, sur la FM, sur le web en flux en streaming, en podcast, et puis on peut faire des mélanges de flux à l'intérieur. En fait, c'est vraiment penser la transmission comme un acte politique. Et pas seulement voilà, en tant que consommateuriste, producteuriste de contenu. En fait, de se dire, à chaque fois qu'on est en train d'émettre quelque chose, on est en train d'agir politiquement. Et y a des personnes qui vont pouvoir aller réfléchir à cet endroit-là aussi précisément. Et je trouve ça super intéressant, en fait, de penser la transmission et, du coup, la réception aussi, comme des actes qui sont aussi fondamentaux que la production en tant que telle. Et ce qui d'ailleurs revient à, enfin, la radio pirate, c'était les gens qui plaçaient un émetteur tout à coup sur une montagne ou en haut d'un immeuble ou sur un navire dans les eaux en dehors des eaux territoriales. Mais c'était aussi fondamentalement la communauté qui écoutait. Enfin, c'était vraiment, c'est une part énorme en fait de l'histoire des radios pirates, tous les gens qui écoutaient ces radios, qui étaient là au rendez-vous. Elle n'aurait pas existé sans ça, quoi.
Est-ce que c'est une pratique encore actuelle, le piratage des fréquences radiophoniques? Et à quel point, est-ce qu'il y a eu une transformation des pratiques par rapport aux archives qu'on a entendues, enfin à cette époque-là.
Aujourd'hui, on est dans un paysage très très différent en fait, qui est extrêmement régulé. Oui, il y a toujours des pratiques, mais elles sont locales et éphémères. Après, on peut. Il y a eu des cas, aussi un cas super intéressant, par exemple Radio Klaxon sur la ZAD a piraté le 107.7 de Vinci Autoroute. Pendant très longtemps. Il y a des cas aussi d'autres piratages en fait du 107.7 de Vinci, plus dans des pratiques à la fois artistiques et politiques, quoi. De dire on va se balader avec un émetteur, puis toutes les voitures qui vont circuler autour de nous sur l'autoroute, elles vont entendre notre programme à la place du 107.7 de Vinci Autoroute, enfin à la place de celui de Vinci Autoroute. Et après, il y a des expériences locales de piratage où on va décider de s'accaparer. Et c'est intéressant d'ailleurs toutes les discussions qui ont lieu sur qui est-ce qu'on va pirater. On va pas aller pirater la radio asso du coin. Enfin, les gens qui il y a plusieurs radios associatives dans une ville, on va pas aller pirater les copains quoi. On va aller pirater. On va choisir en fait sur quelle fréquence on va s'installer. Après, on sait que si jamais on va pirater certaines fréquences qui sont en dehors du spectre radiophonique, là, ça va, on va très très vite être repéré. Il y avait des expériences aussi à Nantes. Il y a eu Radio Mulot aussi qui a mené pas mal d'expériences de piratage très ponctuel. On va dire, c'est plus de l'ordre de la performance aujourd'hui, parce qu'il y a des techniques aussi de localisation de la zone d'émission qui sont beaucoup plus rapides. Ça peut se faire comme ça, quoi. Et je trouve ça bien que ces savoirs se transmettent, d'ailleurs. Dans certaines des pratiques, des ateliers d'échange de pratiques, ce soit dans les rencontres radio libres ou dans d'autres rencontres, apprendre à savoir comment est-ce qu'on monte un émetteur, comment est-ce qu'on diffuse à partir d'un émetteur, que ce soit pour faire de la radio pirate ou pour monter une petite radio locale en fait à des moments très très ponctuels en fait, savoir maîtriser l'outil de A à Z en fait, vraiment comprendre le contexte dans lequel va s'inscrire notre parole quoi.
Il y a deux ans, lors du radio DIY, il y avait eu un atelier fabrication d'émetteurs. Et l'émetteur d'ici, on arrivait à la Croix des Chabots. Du coup, je sais pas combien de distance ça fait, mais quand même, ça fait une petite distance. Et si je me trompe pas, il y a aussi eu des pratiques, aussi à l'époque des radios verts, etc., la pratique ping-pong. Donc, ça veut dire que tu peux multiplier les distances où tu arrives grâce à des ping-pong des radios qui mettent une vers l'autre. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été faites, donc, et qu'on a imaginé.
Ça permet de pas se situer dans un rapport magique à la technologie, quoi, de comprendre comment ça fonctionne. Et qu'on a une capacité en fait de la d'agir dessus en fait, de non seulement de la construire, mais éventuellement de la pirater ou voilà.
Donc est-ce qu'on dit qu'avec ces joyeuses perspectives de piratage, on va continuer la journée ensemble
hein. On va dire merci à Juliette et à Géraldine. Juliette, t'as le blog L'Intempestive. Il y a aussi la revue Saint-Aune, avec un S, à laquelle tu participes. Et donc, du coup, on peut trouver plein de trésors d'écoute. C'est incroyable. Il faut aller absolument voir ce site. Géraldine, le livre dont on parle, donc nous ne nous tairons plus, il est sur la petite table là-bas, à côté des affiches. Et donc vous pouvez l'acheter pour pouvoir le lire. Et puis nous, on n'a pas beaucoup parlé de ce qu'on fait au Studio Son, mais vous pouvez écouter nos productions sur le site de La Parole Errante et aussi sur un audioblog qu'on a sur Arte Radio. Et donc du coup, si vous tapez Parole Errante Studio Son audioblog, normalement, à un moment donné, vous allez retrouver un petit peu voilà ce qu'on peut faire.
Vous venez d'écouter des archives de la radio et des gestes d'émancipation. C'était donc une émission enregistrée en direct à La Parole Errante à Montreuil. Donc une table ronde avec Juliette Volclair et Géraldine Beck qui ont toutes les deux contribué au livre « Nous ne nous tairons plus, pratiques féministes de la radio et leur contexte » de 1975 à 2000. Et c'est un livre qu'on peut retrouver aux archives contestataires qui est paru cette année, en 2025. Alors, je vous souhaite une bonne continuation de journée sur Radio Galère 88.4. Ne quittez pas, c'est bientôt l'heure d'une heure en Palestine. Et puis, si vous voulez aller farfouiller pour retrouver un peu tout ce qui a été cité dans cette émission, vous pouvez aller sur le site des archives contestataires, radio.archivescontestataires.ch. Vous allez aussi sur le blog de Juliette Vauclair qui s'appelle L'Intempestive, donc www.intempestive.net. Vous pouvez aussi aller regarder dans les archives de la revue Saint-Aune, S-Y-N-T-O-N-E. Et bien sûr, sur la plateforme Radio Rageuse, radiorageuse.net.